Et à tous. Ça y est, c'est le retour des vacances, c'est bientôt la rentrée. Le temps de la reprise aussi pour l'Église. Et avant de poursuivre cette réflexion sur les relations les uns avec les autres, eh bien, j'aimerais raconter une anecdote. Lorsque j'étais en classe préparatoire, classe prépa au lycée, hein, il y a maintenant une vingtaine d'années, alors j'ai étudié effectivement au lycée Condorcet à Paris, j'avais un camarade d'origine arménienne. Et un jour, j'ai été marqué par ce qu'il avait dit. Alors, ce ne sont peut-être pas les mots exacts qu'il a employés, mais voici à peu près ce qu'il a dit. « Jamais je ne pardonnerai aux Turcs ce qu'ils ont fait. Jamais je ne pardonnerai aux Turcs ce qu'ils ont fait. » Il faisait en fait référence au génocide des Arméniens qui avait été commis au début du XXe siècle sous l'Empire ottoman. Et à cause de ce crime du passé, mon ancien camarade vouait une haine viscérale à l'égard des Turcs. Et ça m'a marqué d'entendre cela de sa part. Il haïssait les Turcs. Aujourd'hui encore, nous le voyons dans l'actualité, des peuples s'entre-déchirent. Une nation se dresse contre une autre. Et il ne serait pas étonnant que dans plusieurs décennies, certains disent de la même manière qu'ils ne pardonneront jamais ce que d'autres ont fait à leur peuple. Sans maintenant parler davantage des conflits entre nations, nous constatons aussi au quotidien que les relations humaines peuvent potentiellement devenir conflictuelles, y compris au sein de l'Église. Bien que les chrétiens ne soient pas toujours exemplaires, ils savent tous ce que le Seigneur leur a enseigné. Jésus leur a enseigné à se pardonner mutuellement. Pourtant, j'ai plusieurs fois entendu des chrétiens avouer qu'ils ne pouvaient pas pardonner ceux qui les avaient offensés. En tout cas, au moment où ils m'en parlaient, ils ne pouvaient pas. Et loin de moi l'idée de juger qui que ce soit à ce sujet, ou de dire que c'est facile, qu'il faut pardonner. Et en même temps, j'ai la profonde conviction que si le Seigneur le demande dans sa parole, si le Seigneur demande à ses enfants de se pardonner mutuellement, eh bien je crois qu'il est toujours possible de pardonner. Et avant d'aborder cette question du pardon, eh bien je vous propose dans un premier temps de nous pencher sur l'enseignement chrétien qui est évoqué quelques versets auparavant. Je vais remonter au début du chapitre 4, si vous avez vos Bibles avec vous. Ça peut être commode pour pouvoir suivre en même temps. Je mentionne d'abord, et les textes seront également affichés, mais je mentionne d'abord ce que Paul évoque au début du chapitre 4, notamment au verset 1. Il dit « Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Et il poursuit en encourageant ses destinataires à vivre dans l'amour les uns pour les autres, à veiller à leur unité, efforcez-vous de conserver l'unité, à œuvrer pour l'édification des frères et sœurs. Et j'arrive au verset 17, où Paul aborde à nouveau la question de la conduite. Nous lisons au verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. » Autrement dit, se conduire d'une manière digne de la vocation chrétienne, cela revient à dire ne pas se conduire comme les non-croyants. C'est se distinguer par la manière de vivre. Se distinguer d'eux, des non-croyants, par la manière de vivre. Dans les versets qui suivent, lorsqu'on regarde la suite du texte, Paul parle de débauche. Paul parle d'avidité. Il parle d'impureté au verset 19 pour qualifier le train de vie des païens. Et précisément, les chrétiens d'Éphèse qui vivaient au milieu d'eux, eh bien, ne devaient pas se conduire de cette manière. Maintenant qu'ils connaissaient Christ, maintenant qu'ils connaissaient la vérité de l'Évangile, ils étaient appelés, en effet, à un changement de vie. Paul et d'autres leur avaient enseigné en quoi cela consistait. Et je vous propose de revenir là-dessus. Repérez les verbes qui sont dans notre texte à l'infinitif. Je relis les versets 22 et 24. Enfin, je lis les versets 22 à 24. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est là l'enseignement qui vient du Seigneur. Est-ce que vous avez repéré ces trois verbes à l'infinitif ? En fait, devenir chrétien consiste d'abord à se débarrasser de ce que nous étions, ce que Paul appelle ici le vieil homme. C'est le moment où, en fait, nous nous sommes repentis, le moment où nous avons confessé que notre manière de vivre jusque-là était effectivement condamnable. C'est le moment où nous avons demandé pardon à Dieu pour nos péchés passés. Nous nous sommes débarrassés. Mais nous avons constaté aussi rapidement, dans notre quotidien, dans notre expérience, que ce renoncement à notre ancienne vie était en fait à renouveler chaque jour. Ce matin encore, nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à nous débarrasser de ce qui appartient à notre passé. Nous bataillons encore avec une manière de vivre qui, en fait, est destructrice pour nous. Et je pense que nous en avons conscience lorsque nous faisons des mauvais choix. Lorsque nous nous orientons vers une manière de vivre qui, en fait, nous détruit plus qu'autre chose. Eh bien, nous sommes appelés encore ce matin à nous débarrasser de cela. Nous ne sommes pas tout à fait habitués, en fait, à la nouvelle vie, à la nouvelle manière de vivre. Nous apprenons encore. C'est pourquoi, deuxièmement, notre intelligence a besoin d'être renouvelée. Si nous devions simplement écouter notre ancien moi, notre vieil homme, eh bien, à coup sûr, nous irions vers des mauvais choix. Mais nous avons besoin, en fait, que Dieu agisse en nous, qu'il nous rappelle à l'ordre, qu'il renouvelle notre intelligence pour nous faire comprendre que, en fait, non, ça, c'est un mauvais choix, il faut aller dans ce sens-là. Et c'est ce que fait l'Esprit Saint en nous lorsque nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu. C'est là que notre intelligence est renouvelée. C'est lorsque nous nous mettons à écouter sa parole, lorsque nous nous mettons, comme nous le faisons ce matin, à méditer sa parole. Ça contribue à transformer ce que nous sommes censés comprendre. Et qu'est-ce que nous devons comprendre ? Eh bien, nous devons comprendre ce que Dieu attend de nous. Nous devons comprendre quelle est la manière de vivre qui lui plaît, parce que instinctivement, nous ne le savons pas. Instinctivement, nous n'irions pas dans ce sens-là. C'est pourquoi nous avons besoin que notre intelligence, notre compréhension, notre cœur soient sans cesse renouvelés par l'œuvre de l'Esprit. Et il n'y a pas d'autre moyen que d'être au contact de la parole pour cela. Éloignez ce livre de vous et vous êtes sûr de faire les mauvais choix et de ne pas vivre de manière à plaire à Dieu. Plongez-vous dans ce livre, méditez-le, passez du temps à essayer de mettre en pratique ce que Dieu dit, et alors vous prenez le chemin de la nouvelle vie. Et je pense, et On le dit assez souvent ici, on ne peut pas faire l'économie de connaître la parole et de savoir ce que Dieu attend de nous. Autrement, n'espérez pas un changement quelconque dans votre vie. Et justement, Dieu nous appelle à le suivre, à lui obéir, à marcher d'une manière nouvelle. Et c'est là l'image du nouveau vêtement que vous avez au verset 24. Oui, il s'agit en fait de se débarrasser du vieux vêtement qu'on avait, qui correspond au vieil homme, et de se revêtir de l'homme nouveau, d'un nouveau vêtement, d'accepter de le porter, de faire le choix de le porter chaque jour. Ce que Paul appelle ici l'homme nouveau. Ce nouveau vêtement, cette nouvelle, en fait, création. Et vous remarquez que ce n'est pas un vêtement que nous nous sommes fabriqués nous-mêmes. Il s'agit de prendre le vêtement que Dieu a créé. L'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Alors oui, se débarrasser, se laisser renouveler et se revêtir sont les verbes qui résument notre nouvelle vie en Christ. Et cela signifie que concrètement, nous faisons chaque jour le choix de vivre délibérément, selon ce qui est juste, selon ce qui est saint aux yeux de Dieu. Et sa parole, par l'œuvre, l'action de son esprit, nous aide à voir toujours plus clair à ce sujet, à savoir comment nous devons vivre devant Dieu. Nous comprenons donc par ces versets que nous sommes en train d'examiner que le changement ne va pas venir sans l'action de l'Esprit de Dieu. Et il ne va pas venir non plus sans nos efforts quotidiens. Paul rappelle ici à ses destinataires l'enseignement qu'ils ont reçu. On vous a enseigné cela. On vous a enseigné à vous débarrasser, à vous laisser renouveler et à vous revêtir. Et il leur rappelle cet enseignement en fait pour les encourager à vivre d'une manière digne de leur vocation chrétienne. C'est ça, être chrétien. Alors, demandons-nous ce matin, sommes-nous toujours dans ce processus de transformation? Est-ce que nous continuons à nous débarrasser de ce qui faisait partie de notre ancienne vie et qui offensait Dieu? Est-ce que nous continuons à nous laisser nous renouveler par le Saint-Esprit au contact constant de sa parole? Est-ce que nous sommes toujours dans ce processus? Est-ce que nous continuons à nous revêtir de ce qui caractérise l'homme nouveau et dont Jésus est le modèle parfait? Autrement dit, sommes-nous en train de ressembler de plus en plus à Jésus? Est-ce que nous prenons ce chemin-là? Sommes-nous en train d'appliquer, en fait, l'enseignement du Seigneur, comme le feraient des disciples? Le Maître nous a enseigné ceci et cela. Est-ce que nous le faisons? Et je dis bien, est-ce que nous le faisons? Je m'inclus dedans. Est-ce que nous le faisons? Je vous propose déjà, à cet instant de la prédication, de faire le point. Quelques instants. Sur là où vous en êtes par rapport à ces versets que nous venons d'aborder, avant de pouvoir poursuivre avec le sujet du pardon. Sommes-nous dans ce processus de transformation? Si Dieu vous parle encore ce matin, c'est qu'il est encore temps d'aller dans ce sens-là. Et dans la suite du texte, Paul mentionne plusieurs applications justement de cet enseignement. Par exemple, qu'est-ce qu'il va dire? Les chrétiens doivent se débarrasser du mensonge et ils doivent dire la vérité les uns aux autres. Ils doivent se débarrasser et revêtir. Ils doivent se débarrasser des paroles malsaines et prononcer au contraire des paroles qui édifient les autres. Ils se débarrassent d'un côté, ils revêtent de l'autre. Et nous allons le voir tout de suite, ils doivent se débarrasser de toute forme de méchanceté et à la place être bons, pleins de compassion et prêts à se pardonner mutuellement. Et vous voyez comment Paul raisonne. Il part de l'enseignement que nous avons reçu du Seigneur et il nous montre que la conséquence logique de cet enseignement, à savoir vivre d'une manière nouvelle, eh bien cela inclut de se débarrasser de certaines choses et de se revêtir d'autres choses. Et justement, parlons de ce comportement chrétien. Puisque le croyant est appelé à cheminer constamment vers le changement, chaque jour un peu plus, eh bien cela touche évidemment le domaine des relations interpersonnelles. Et dans l'église locale, nous sommes constamment, comme dans la société, hein, mais dans l'église locale, nous sommes constamment avec des pécheurs. Vous avez remarqué ? À droite, à gauche, vous êtes entouré de pécheurs. Et moi le premier. Là où au dehors, les gens se tapent dessus, quand il y a des conflits, où les nations se font la guerre, eh bien dans l'église, les chrétiens, eux, vivent ou sont censés vivre un autre type de relation qui inclut la bonté, qui inclut la compassion, qui inclut le pardon. Oui, dehors, ça se tape dessus. Mais dans l'Église, dans la communauté des croyants, il devrait en être autrement. Et c'est pour cela que je reprends les versets 31 et 32 de notre texte. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Vous le lisez avec moi au verset 31. En tant qu'Église, nous avons la responsabilité collective de nous débarrasser de tout ce qui abîme nos relations. C'est une responsabilité collective, globale, de nous tous, de nous débarrasser, de faire disparaître tout ce qui abîme nos relations. En partant de ce qui se trouve dans notre cœur, vous voyez que la liste mentionne l'amertume, mentionne la colère, jusqu'à l'expression de cette méchanceté dans les paroles et dans les actes. La colère peut effectivement s'exprimer par des cris. Ce sont les éclats de voix qu'on voit ici. La méchanceté peut conduire à dire des mensonges sur son prochain. C'est ce qu'on appelle les calomnies. Alors j'aimerais nous questionner là-dessus. Reste-t-il au milieu de nous de l'amertume, de la colère ou de la méchanceté? Alors, j'ose espérer que non, mais je ne peux pas lire dans les cœurs. Alors, examinons-nous chacun. Y a-t-il au fond de mon cœur une trace d'amertume à l'égard de mes frères et sœurs? De la rancœur, de la colère. Peut-être tapis au fond de mon cœur et que je ne veux pas, voilà, je ne veux pas rouvrir le dossier, mais pourtant c'est encore là. Amertume après plusieurs déceptions dans l'Église. Amertume après des paroles ou des attitudes blessantes. Et vous savez, une personne amère peut ne rien dire, mais elle n'en pense pas moins. Et parfois, en creusant bien, on se surprend à en vouloir à l'Église. Si j'en parle, c'est parce que j'ai connaissance de situations qui vont dans ce sens-là. On se surprend à en vouloir à toute l'Église. Ce sont les dégâts de l'amertume. et qui font forcément des dégâts sur les relations les uns avec les autres. Et dans certains cas, on quitte l'Église. L'apôtre Paul exhorte à faire disparaître toute amertume. Et cela commence par ce qui se passe dans notre cœur. Le ressentiment, la haine, le désir de vengeance n'ont pas leur place au sein de l'Église. Tout ce qui s'apparente à la méchanceté, au fait de vouloir du mal à son frère, à sa sœur en Christ, doit absolument disparaître. Alors je veux encore nous exhorter à œuvrer ensemble dans ce sens, à faire disparaître toute racine de méchanceté, en commençant chacun par nous-mêmes. À la place et à l'image de notre Dieu, choisissons la bonté. Choisissons la compassion. Choisissons le pardon entre nous. Soyons bons envers les autres, comme Dieu a été bon à notre égard. Soyons compatissants en comprenant les difficultés que l'autre vit en ce moment, comme Dieu a considéré notre misère spirituelle et qui nous a tendu la main. Soyons prêts à pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. Et nous ne pouvons pas parler du pardon mutuel les uns envers les autres dans l'Église sans d'abord évoquer le pardon de nos péchés par Dieu. Vous êtes peut-être dans cette situation de la personne qui est offensée ou blessée. Un frère, une sœur a fait quelque chose qui ne vous a pas plu. Un frère, une sœur a abusé de votre confiance. Un frère, une sœur vous a adressé des paroles blessantes. Ce qui malheureusement n'est pas chose rare dans l'Église. Et peut-être que vous n'êtes pas, à ce moment-là, disposé à pardonner cette offense. Pour parler d'une manière imagée, votre frère, votre sœur en Christ a contracté auprès de vous une dette que vous n'êtes pas prêt à remettre. Oui, c'est bien en termes de dette que la Bible parle parfois du péché. Si je pêche contre l'un d'entre vous, je contracte une dette auprès de vous. Et vous avez le choix de m'en vouloir ou bien de me remettre ma dette. Même si le pardon peut nous sembler parfois difficile, voire impossible dans certains cas, la Bible nous renvoie d'abord au pardon de Dieu, dont nous avons bénéficié. Alors je relis encore cette exhortation du verset 32. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Les pécheurs que nous sommes avions des dettes que Dieu a bien voulu nous remettre. Non pas seulement une ou deux dettes, mais une multitude incalculable de dettes à l'égard de Dieu. Et en Christ, grâce à sa mort sur la croix pour nos péchés, eh bien nous sommes pardonnés. Nous n'avons plus à payer pour nos dettes. Et l'apôtre Paul l'a évoqué justement un peu plus tôt dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 7. En lui, en Christ, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Oui, c'est en donnant sa vie que Jésus a payé pour nos dettes, pour nos fautes. Et c'est précisément parce qu'il a donné sa vie pour nous, parce qu'il a pris notre place, alors que nous méritions d'être châtiés, eh bien c'est la raison pour laquelle le pardon est possible. Et de la même manière, et c'est le sens du mot « comme » dans notre verset. De la même manière, en tant que personne pardonnée par Dieu, nous devons les uns les autres nous pardonner réciproquement. Cette parole s'adresse à des chrétiens qui ont normalement expérimenté le pardon de Dieu. Oui, si Dieu ne nous avait pas pardonné, alors oui, nous ne serions pas tenus de pardonner aux autres. Mais si Dieu nous a pardonné, alors nous sommes tenus de pardonner à notre tour. La version Colombe, qui est une autre traduction française, a traduit le verset 32 de cette manière: « Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Et c'est le sens du verbe en grec « faire grâce aux autres ». Dans l'Église, le Seigneur nous commande de nous faire grâce les uns aux autres, puisque nous avons tous bénéficié de la grâce de Dieu. Mon frère, ma sœur en Christ ne mérite pas mon pardon, mais je choisis, à cause du pardon de Dieu envers moi, de pardonner à mon tour. Je fais grâce. Alors que le tort, c'est l'autre qui l'a commis. Mais je fais grâce, parce que Dieu m'a fait grâce. Le monde qui nous entoure ne voit pas du tout le pardon de cette manière, comme une grâce. Mais c'est différent pour les enfants de Dieu. Et c'est là, si vous repensez à l'enseignement chrétien, se débarrasser d'une ancienne manière de vivre et se revêtir d'une nouvelle. Eh bien, la nouvelle manière de vivre, c'est de pardonner comme Dieu nous a pardonné. C'est à cela que nous voyons si nous mettons en pratique l'enseignement que nous avons vu un peu plus tôt. D'un côté, nous faisons disparaître l'amertume et toute forme de méchanceté, et de l'autre, nous nous revêtons de l'homme nouveau, capable de pardonner. Mais je dois encore préciser une chose, c'est que le pardon n'a de sens que si la personne qui a péché reconnaît son tort. Je reviens au pardon que Dieu nous a accordé en Christ. Qui sont les bénéficiaires de ce pardon? Qui sont les bénéficiaires du pardon de Dieu? N'est-ce pas celles et ceux qui prient « Pardonne-nous nos offenses » N'est-ce pas celles et ceux qui reconnaissent qu'ils ont péché contre Dieu? Autrement dit, si nous ne reconnaissons pas avoir péché contre Dieu, Dieu ne nous pardonne pas. Dieu ne pardonne qu'à celles et ceux qui le reconnaissent. Si nous devons pardonner comme Dieu pardonne, cela implique que la personne qui nous a offensés, eh bien, cela implique qu'elle doit reconnaître sa culpabilité. Et Jésus a enseigné cela. En Luc 17, nous lisons au verset 3 et 4. « Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. » S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée et que 7 fois dans la journée, ils reviennent vers toi et disent « J'ai eu tort », tu lui pardonneras. Jésus fait référence à des situations qui peuvent tout à fait avoir lieu. Et je crois, en fait, que dans bien des situations conflictuelles, nous sautons des étapes. Il n'est pas dit ici, si ton frère a péché contre toi, pardonne-lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, c'est un raccourci de faire cela. Si ton frère a péché contre toi, pardonne-lui, ce n'est pas ce qui est écrit. Encore faut-il qu'il s'en rende compte. D'où l'étape de le reprendre, de lui dire que ce qu'il a fait est de l'ordre du péché. Et je sais que ce n'est pas simple de reprendre quelqu'un, de lui faire reconnaître qu'il a tort. D'où l'étape, ensuite, de la reconnaissance du tort causé. Eh bien, celui qui a été repris dit « Ah, d'accord, j'ai causé du tort, donc je demande pardon. Je reconnais mon tort. » Et ici, c'est ce que nous voyons. S'il reconnaît ses torts, alors, dernière étape, pardonne-lui. Et même s'il fait 7 fois cette démarche, à chaque fois, dit Jésus, tu lui pardonneras. S'il reconnaît ses torts. Prenons un cas concret. Je reprends un exemple que mon collègue Sylvain Romerowski a développé sur ce sujet, et je vous le soumets. Imaginons qu'Esther, je te prends un exemple, imaginons, hein, d'accord, ce n'est pas forcément une situation réelle, mais j'avais pensé à quelqu'un, et donc voilà, Esther. Imaginons qu'Esther a été victime de calomnie dans cette église. Autrement dit, un frère a rapporté à d'autres des mensonges à son sujet, des choses qui ne sont pas vraies. On a raconté des ragots, n'importe quoi. Pour cette raison, blessée, Esther cesse de participer aux réunions de l'église. On ne la voit plus. Et on peut le comprendre, elle a été blessée et des rumeurs circulent à son sujet, et donc c'est normal qu'elle ne veuille plus être parmi nous. Et voilà que les responsables de l'église l'apprennent et ils vont trouver Esther. Et ils lui demandent de pardonner à ce frère et de pouvoir revenir à l'église. Est-ce que vous pensez que les responsables de l'église ont bien traité la situation ? Alors, certains me disent non. D'autres diraient le contraire. Alors, vous me voyez peut-être venir. En réalité, ici, les responsables commettent deux fautes. La première, c'est qu'ils ne sont pas allés trouver le frère en question pour le reprendre. Parce que c'est souvent plus facile d'aller vers la personne qui boude dans son coin, en quelque sorte, et de lui dire « pardonne à ton frère ». Donc, première erreur, ils ne sont pas allés voir le frère en question pour le reprendre. Ou au moins d'avoir la démarche de rétablir la vérité, de se dire « ce qu'il a dit est faux » et de pouvoir le faire publiquement. La deuxième faute, c'est précisément qu'il demande à Esther de pardonner, alors que la situation n'est pas rétablie, alors que le frère fautif n'a pas reconnu son tort. Et dans notre histoire, Esther passe pour la coupable, parce qu'elle refuse de pardonner à son frère, alors qu'en réalité, elle est victime. Est-ce que vous percevez ce qui ne va pas quand celui qui a péché n'est pas repris? C'est bien trop facile de dire à quelqu'un « il faut que tu pardonnes ». Mais encore faut-il que la personne reconnaisse son tort. Et voyez que lorsque la personne qui a péché n'est pas reprise, eh bien cela entrave la démarche du pardon. Cela empêche de pardonner. Et on ne pourra pas reprocher à Esther de ne pas pardonner. Jacques Buchold a écrit dans son livre « Le pardon et l'oubli », un livre que je vous recommande de lire sur ce sujet. Voici ce qu'il écrit. « Pardonner sans exiger la repentance, c'est donner raison à l'offenseur et tort à l'offensé, de manière implicite en tout cas. » Donc ça résume ce que je viens de dire. Si nous demandons à quelqu'un de pardonner sans exiger la repentance de l'autre, nous sommes en train de donner raison à celui qui offense et de faire du tort à celui qui a été offensé. Et je ne suis pas sûr que nous avons toujours cette conception du pardon. Et pourtant, il me semble que c'est celle qui correspond à ce que le Seigneur nous enseigne. Entendons une nouvelle fois ce que le Seigneur nous dit par l'apôtre Paul ce matin. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. J'ignore les histoires anciennes dans notre communauté. Mais je sais, en ayant côtoyé plusieurs églises, qu'il existe parfois de l'amertume, parce que les choses n'ont pas été dites au moment de l'offense. Et qu'il y a une part, en fait, où on est toujours un peu blessé. Et que la personne soit encore dans cette assemblée ou qu'elle soit déjà ailleurs, eh bien, il est temps de revenir sur l'offense, afin que l'autre le reconnaisse et que vous soyez prêt à pardonner. Et si c'est trop dur de le faire de vive voix, eh bien, vous avez encore la possibilité d'écrire une lettre. Je sais que c'est une pratique qui se perd. Mais prendre le temps d'exprimer par écrit ce que nous voulons dire vaut mieux parfois que des paroles spontanées et mal contrôlées. Et peut-être que cette démarche a besoin d'être faite avant la rentrée. Pardonnez-vous réciproquement. Et peut-être que parfois les torts effectivement sont partagés. Alors c'est l'occasion d'une discussion. Le pardon mutuel fait partie de la nouvelle vie en Christ. Les non-croyants, les païens, n'ont pas cette notion du pardon où il s'agit de faire grâce aux autres. Donc le pardon mutuel fait partie de la nouvelle vie en Christ. Nous aimer les uns les autres, c'est aussi être disposé à nous faire grâce mutuellement, puisque nous avons été nous-mêmes l'objet de la grâce de Dieu. C'est être prêt à pardonner à celui, à celle qui reconnaît ses torts. Et dans certaines situations, eh bien, cela prend du temps, c'est vrai. Cela prend du temps tant la blessure est profonde, tant la confiance a été abîmée. Et je ne remets pas cela en question, que ça puisse prendre du temps. Pardonner ne relève pas en fait d'une aptitude innée, parce que naturellement un pécheur aurait envie de se venger. Tu m'as fait ça, je te fais ça. Naturellement, un pécheur aurait envie de se venger plutôt que de faire grâce. Donc, pardonner ne relève pas d'une aptitude innée, mais pardonner fait partie de la nouvelle création. Or, en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Et par l'Esprit Saint, nous sommes capables de pardonner, de ne plus tenir rigueur du mal qui nous a été fait, de ne plus le mettre au compte du frère, de la sœur qui nous a offensés. Parce qu'en fin de compte, et je veux terminer là-dessus, en fin de compte, nous nous souvenons ce matin de l'Évangile. Nous nous souvenons que Christ a payé pour nos offenses, y compris pour les offenses qui nous sont faites. Dès lors que l'autre reconnaît son tort, ou que nous reconnaissons nos torts vis-à-vis de l'autre, le pardon est possible parce que Christ a déjà tout payé. Ce qui compte premièrement pour nous, c'est que Dieu nous a fait grâce. Et c'est ce qui motive notre pardon. Je citerai encore Sylvain Romerowski qui dit à ce sujet: « Alors en quoi consiste notre pardon envers autrui ? Notre pardon envers autrui découle du pardon de Dieu. Pardonner, c'est reconnaître que Dieu a pardonné. C'est dire à celui qui a commis l'offense, Dieu t'a pardonné. Tu es quitte de ta dette. Tu n'as pas à payer pour ta faute. Et je ne demande pas que tu payes pour ta faute. Je ne t'en tiens plus rigueur. Je te pardonne moi aussi. » Vous voyez que dans la démarche du pardon à l'égard des autres, il y a la reconnaissance que Dieu a pardonné aussi. Et que nous serions bien mal placés pour ne pas vouloir pardonner si Dieu pardonne. Partout ailleurs dans ce monde, les conflits entre les hommes, entre les peuples se multiplient. On laisse libre cours à la haine, à l'amertume, à la vengeance, à la méchanceté. Or, celles et ceux qui appartiennent au Seigneur tournent justement le dos à cette haine du prochain et vivent tout autrement. Ils font preuve de bonté, ils font preuve de compassion les uns à l'égard des autres. Ils pardonnent quand l'autre reconnaît son tort, tout comme le Seigneur nous a pardonné tous nos péchés. Et au lieu de voir la colère, au lieu de voir l'animosité, la rancœur dans l'Église, eh bien nous y trouvons des choses merveilleuses, des demandes de pardon, des réconciliations, des relations restaurées. C'est l'enseignement du Seigneur. et nous sommes heureux si nous le mettons en pratique. Amen. Prions ensemble. Notre Dieu, nous voulons te remercier encore pour tes instructions, pour ton enseignement, pour ta parole. Merci parce que c'est de cette manière-là que nous savons de mieux en mieux ce que tu attends de nous et quelle est la manière de vivre qui te plaît. Et alors que nous avons abordé ce sujet du pardon, qui est toujours un sujet délicat, tant cela peut réveiller d'anciennes histoires et des choses qui font encore mal, eh bien, nous voulons encore regarder à toi et à ta grâce. Encore regarder au pardon que tu nous as accordé en Christ. Et nous souvenir que nous avons été bien plus endettés que ce que l'autre peut nous faire. Que nous avons causé bien plus de tort à ton égard que ce que l'autre a pu faire à notre égard. Et alors que nous nous souvenons de ta bonté à notre égard, de cette grâce que tu as manifestée envers nous, de ne plus tenir rigueur du mal que nous avons fait, eh bien cela nous encourage, nous motive à pardonner à notre tour. Mais nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que, comme nous l'avons vu, ce n'est pas inné. Nous avons besoin que tu renouvelles notre intelligence et que tu nous aides à revêtir l'homme nouveau, à pouvoir avoir de nouvelles attitudes totalement différentes de ce que nous pouvons trouver dans le monde déchu. Alors s'il te plaît, Seigneur, nous t'en prions que le pardon puisse être au milieu de nous, que la bonté et la compassion le soient également, et que toute amertume, toute colère, toute haine, toute méchanceté, toute calomnie, que tout cela disparaisse du milieu de nous. Et tu nous en tiens responsables, Seigneur, mais nous prions, Seigneur, que nous puissions cheminer dans ce sens-là, pour ta gloire et pour le bien de ton Église. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen.